des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est L'Idée Livre, votre émission littéraire sur CFM, diffusée le samedi à 18h et en rediffusion le mardi à 12h35. Aujourd'hui, en compagnie de Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et Joël.
Bonjour Fred.
Voilà, alors Joël va continuer de nous parler d'Arien. Oui, Monique me fait rire, vous ne le voyez pas, mais Monique me fait beaucoup rire. Donc, Joël nous parle de Darien encore, et pour la deuxième fois, et puis la semaine prochaine, on vous réserve un ersatz de tout ce qu'on vous a présenté cette année. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'un livre un peu particulier qui s'appelle Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose ? Si on, voilà, le titre, et c'est un livre qui est édité chez Gallimard par Rochast. Rose Chaste, c'est pas rien de s'appeler comme ça déjà, parce que on ne sait pas si ses parents l'ont fait exprès, mais c'est quand même pas facile. Je ne sais pas s'ils ont une référence à Ronsard, mais bon, on pourrait.
Rose, c'est Rosalind.
Rose et Rose, c'est la vie.
Rose, c'est la vie et, ouais, et Chaste, la pureté. Enfin bon, toujours est-il que c'est une Américaine qui est née donc en 1954 et qui a publié ses premiers dessins au New Yorker en 1978. Et elle en publie régulièrement depuis. C'est une femme qui a beaucoup d'humour, beaucoup d'à-propos et qui travaille énormément avec l'actualité. Et elle a écrit ce roman BD autobiographique après le décès de ses parents. C'est aussi quelqu'un qui dessine tout ce qu'elle voit. Hein, donc, elle a raconté sa famille ordinaire, elle est fille unique d'un certain Georges, qui est professeur de langue, effacé et pacifique, et de sa mère, Elisabeth, brillante et autoritaire. Alors, on imagine bien le couple détonnant que ça peut faire. Elle tombe jamais dans le cliché, mais elle tape toujours très très juste. Il y a des scènes absolument fabuleuses. Et alors, je l'ai fait lire ce livre à un jeune adulte de 24 ans. Et sa première réflexion, ça a été de me dire qu'on devrait tous le lire avant d'être à cette étape de la longue fin de vie où les enfants sont démunis. Parce qu'en fait, dans ce livre, elle raconte, elle parle de son début parce que ça explique la fin. Elle raconte sa naissance avant de s'attarder sur la fin de vie de ses parents qui a été particulièrement longue et douloureuse. C'est un roman graphique, c'est très subtil et ce que je disais, c'est comme c'est quelqu'un qui dessine tout, on se rend compte en voyant les images que ses yeux voient bien plus que ce qu'il regarde en fait. Mmh. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple regard sur les choses. Il y a des dessins, il y a des photos. Ça prend sens avec un texte qui est parfois très drôle, souvent très juste. Rarement longtemps découragé, parce qu'il y a quand même des moments...
Oui, il y a des moments douloureux quand même.
Très douloureux et tristes.
Oui, oui, oui. Mais elle sait en faire quelque chose de... Ouais. Elle sait le détourner de façon à ce que ça reste quand même... Ça ait un côté...
Voilà, alors le livre a été découpé en chapitres, ce qui en fait un livre en fait, justement. Parce qu'une BD, c'est toujours très linéaire, il y a rarement des chapitres. Et là, c'est fait en chapitres. Et c'est comment on accompagne nos proches dans notre société contemporaine. Et alors, je vais vous dire les titres de chapitres. Il y a le début de la fin. Alors là, c'est le début de la fin. Ne serait-ce que ça, c'est bien vu parce que elle se rend de moins en moins souvent chez ses parents, se trouve des excuses et puis à un moment, elle est rongée par la culpabilité et un sentiment de peur. Du coup, elle commence à y aller un peu plus souvent. Puis elle y va de plus en plus régulièrement. Donc après, il y a le retour au bercail. Après, il y a la séquence l'avocat du troisième âge qui est assez épique. Bon, ça, c'est plus américain que chez nous parce que je pense pas que des personnes comme ça existent chez nous. Mais c'est un personnage qui vient essayer de faire une médiation familiale concernant l'état des finances, comment on peut gérer l'argent pour aller en maison de retraite, etc. Après, il y a une séquence sur les Galapagos et puis il y a la chute et puis il y a la suite. Voilà, alors c'est très très émouvant, je veux dire, et ça nous parle à tous qui sommes forcément un jour concernés par ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que elle a illustré des livres pour enfants que nous n'avons pas lus, mais celui-là c'est le seul, parce que forcément on les a pas lus parce qu'ils n'ont pas été publiés en France.
C'est ça, c'est le seul
qui a été publié en France. On aura bien des regrets d'ailleurs. Et il a été aux États-Unis, il a été publié en mai 2014 et en France en octobre 2015. Et il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, elle a reçu le prix de l'autobiographie du National Book Critics Circle pour ce livre.
Voilà. Et je pense que ce qui en fait aussi, ce qui fait sa force justement, c'est le format, la forme qu'elle a choisi. Je sais pas comment il faut dire, roman graphique, histoire dessinée. Mmh. Il y a aussi des photos qui sont des photos réelles qu'elle a prises dans l'appartement de ses parents. Donc, si c'était un roman, moi c'est l'impression que j'ai eue, si ça avait été un roman écrit de façon tout à fait classique, linéaire, chapitre après chapitre, je pense qu'il aurait pas pris. Certainement pas. La force peut-être de et puis le côté émouvant qu'il a justement parce qu'il y a ces dessins qui sont très très expressifs. Il y a les croquis qu'elle a fait juste quelques minutes après la mort de sa mère, des croquis.
Oui, parce que le premier réflexe qu'elle a eu quand sa mère est morte, c'est de la dessiner en fait.
Voilà, et les dessins sont très très drôles, donc ça.
Oui, alors il y a la séquence dans le grand magasin là où elle va avec sa mère. Acheter des collants. Et sa mère, la première chose qu'elle fait, c'est des gens qui ont souffert, qui ont eu des problèmes d'argent toute leur vie et qui comptent chaque sou, en fait. Et là, elle va et elle se précipite toujours sur les soldes où il ne reste plus que des collants XXXXXL dans des coloris improbables. Mais sa mère les achète quand même en lui disant qu'avec tous ces collants, elle arrivera bien à s'en faire une paire correcte, quoi. Et que si elle n'y arrive pas, elle fera une veste à son père. Et il y a tout un tas de choses comme ça qui sont du vécu. Il y a la séquence aussi où elle régente ce que mange son mari, cette femme qui est très autoritaire avec
terrible.
Les olives.
Elle est terrible.
Et Rose chaste, elle se dessine, elle se met en scène en expliquant qu'un jour elle a voulu intervenir en disant à sa mère, mais pas fichu la paix, mais laisse-le manger les olives qu'il veut manger. Et c'est son père lui-même qui était alors martyrisé par sa mère qui l'a disputé en lui disant, mais pourquoi tu te mêles de ça? Ça te regarde pas, enfin. Et c'est vraiment, je trouvais que c'était tellement juste et tellement vrai. Et puis elle juge pas, elle est pleine de tendresse et et d'affection pour ces gens qui n'ont pas été faciles du tout à vivre. Et puis, la fin aussi quand sa mère met autant de temps à mourir, c'est terrible. Voilà, on va arrêter là, on va écouter Benabar, qui va nous faire un petit chemin de la vie de famille.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple bivaque sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants, corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit, et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs, du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres s'y grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ça sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent, chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, vêtement par vêtement, petit à petit, vêtement par vêtement. Ils habitent à Paris, des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laissé vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent dans le frigo, on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat qui rouvre les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boy aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois. La modeste est promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier. Je dois vous prévenir, si vous voulez l'acheter, je préfère vous le dire, cette maison est hantée. Ne soyez pas monsieur, n'ayez crainte madame, c'est hanté c'est vrai, mais de gentils fantômes, de monstres et de dragons, que les gamins savent voir, de pleurs et de bagarres, et de copieux quatre heures, finis tes devoirs. Il est trop lourd mon cartable, laisse tranquille ton frère, les enfants à table. Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez? Écoutez la musique, est-ce que vous l'entendez?
Voilà, on revient avec Georges Hippolyte Adrien, qui va signer Darien à partir de son premier grand livre, c'est-à-dire Biribi. Et là, pour vous faire connaître Darien, je vais vous lire l'entrée de ce livre. Ce livre est un livre vrai. Biribi a été vécu. Il n'a point été composé avec des lambeaux de souvenirs, des haillons de documents, des loques pailletées, des récits suspects. Ce n'est pas un habit d'arlequin, c'est une casaque de forçat sans doublure. Voilà ce qu'il a fait dans Biribi. Donc, je vous en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Donc, Biribi, c'est son expérience de forçat. Donc, il va raconter de façon extrêmement réaliste et que l'un dans l'autre, ça va provoquer suffisamment de réactions pour arriver bien plus tard, bien des années plus tard, à la suppression de ces bagnes. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Le voleur qui a permis justement de continuer à connaître Darien. Sinon, Darien était tombé complètement dans l'oubli. Et c'était un inconnu, un grand inconnu. Il était simplement cité par Alfred Jarry, donc, dont on connaît tout Ubu. Il était dans la bibliothèque du docteur Faust Troll. Et il y a 27 livres universels. Et il se trouve que Jean-Jacques Pauvert avait vu cette liste-là, il se demandait qui était Darien, et il avait envie de lire Le Voleur. Il est tombé sur Le Voleur en 1953. Quand il a lu, il a passé la nuit à le lire, et dès le lendemain, il a envoyé à l'éditeur son exemplaire complètement ouvert pour le faire imprimer. Il a été imprimé, et il a eu immédiatement, dès sa parution, une critique dithyrambique d'André Breton, et je me garderai bien de la paraphraser, vous la trouverez, parce que tout est dit dans le livre de Breton, c'est un livre complet, Le Voleur. Et cet ouvrage qu'on ne lâche pas, bien sûr, dès qu'on le commence, c'est Darien dit dès le départ que ce n'est pas lui, le voleur. Il démontre qu'il n'a rien à voir avec ce livre-là, sauf que le voleur s'appelle aussi Georges, comme lui, et que sa description, comme le dit Séverine, la grande Séverine, dont on a parlé, j'ai parlé oui, l'année oui. dernière, Séverine dit « Rouquin, le teint vermeil, la lèvre mince, le regard bleu d'acier insoutenable, d'éclat derrière ses vitres du lorgnon, le geste juste, tout en lui décelait l'énergie, une obstination d'âne rouge, comme il disait lui-même, un orgueil justifié, une âme désespérée de ne pouvoir fleurir. » Ça, c'est la citation de Séverine qui parle évidemment de Darien, mais c'est exactement la description du voleur. Alors, le voleur, c'est évidemment les aventures de ce personnage qui va vivre de vol, hein, comme il dit à un certain moment. Et on le retrouve dans le film de Louis Malle. Alors aussi, il faudrait citer Belmondo, excusez-moi. Mais quand je rentre chez un bourgeois, je m'installe à sa table, je mange, je bois, je laisse la table complètement sale, je fais un sale métier, mais j'ai une excuse. je le fais salement. Ça, c'est Belmondo, et c'est aussi Darien. Et cet ouvrage, c'est en fait la description, mais méticuleuse, de ce monde interlope du 19e, où il y a cette hypocrisie. C'est un livre sur l'hypocrisie de la bourgeoisie. L'oncle qui veut marier sa fille et qui ne la marie plus parce que l'époux n'a plus de dot, n'a plus d'argent. Il se réfugie dans le fait qu'il ne peut plus la marier. Voilà, c'est toutes ces aventures-là, le rôle de la banque, évidemment, le rôle de l'Église, hein, il y a un évêque qui est là aussi, qui manigance un certain nombre de coups avec Georges, le voleur. Donc, c'est un ouvrage qui a eu cet écho-là à partir donc de 1953 par sa réédition par Jean-Jacques Prouvaire et surtout par le film donc de Louis Malle avec Jean-Paul Belmondo en 1955. Donc le voleur, il a son histoire, donc il est toujours disponible, il est ressorti en folio, on peut l'avoir, il est sorti aussi dans l'école aux éditions de l'école. Mais Darien a publié un autre ouvrage. Alors là, il a disparu, Darien. Il a disparu pendant 6 ans. On ne sait pas trop ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on se demande si c'est sa vie ou la vie de quelqu'un d'autre, s'il a tout inventé. Et il a publié Gottlieb Krumm. Alors là, il a édité en anglais. Il a édité en anglais. Il a été traduit beaucoup plus tard que sa parution. Et c'est l'histoire Gottlieb Krumm. C'est l'histoire d'un voleur, mais dans la finance, dans la haute finance, quelqu'un qui va faire. Ces classes dans la haute finance, bon, c'est encore tout à fait d'actualité. Et je voudrais, pour finir, vous parler de cette petite nouvelle qui s'appelle Florentine, qui a été publiée, et là aussi on rejoint nos connaissances, qui a été publiée par la revue indépendante, la revue de Georges Sand et de Pierre Leroux. Ça a été le premier texte de Darien publié. Voilà, on finit cette année, la boucle est bouclée. Et je voudrais tout simplement vous passer la musique de Jacques Dutronc, le gentleman cambrioleur, qui a été publié un petit peu plus tard, en 1907.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs. Sans vous menacer. Il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de la crise à la danse, à l'épouse la meilleure, gentleman quand
Thank you.
Donc, nous vous avons parlé de « Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose ?» de Gallimard. Est-ce que c'est bon, Monique, là, cette fois? De chez Gallimard, de Rose Chaste, qui est paru en octobre 2015. Joël nous a parlé de tous les livres de Darien, je crois. Et nous, pour illustrer un peu le livre de Rose Chaste, qui est ni livre, ni bande dessinée, ni etc., il y a une petite citation qui lui va très bien. Je vous la cite. « La lecture et l'écriture n'ont que faire du sens ?» Elles sont manœuvres et manipulations, découpage et collage. La citation n'a pas de sens en soi parce qu'elle n'est que dans un travail qui la déplace et qui la fait jouer. Voilà. Je crois que c'est une citation de Michel Foucault, mais j'en suis pas sûre. Donc, au bénéfice du doute, je n'affirme rien. Voilà. Merci à tous. Merci à Mathias qui était à la technique et à la semaine prochaine.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.